L'éducation populaire comme réponse aux enjeux de prévention et d'émancipation en santé. L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques, de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans le contexte d'un cycle de conférences autour de l'éducation populaire que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Boris Tavernier, délégué général de VRAC, qui est intervenu pour une matinée sur l'éducation populaire comme réponse aux enjeux de prévention et d'émancipation en santé. Je suis Florian Béton et vous écoutez le podcast « Bâtissons des futurs solidaires » de l'Institut Montparnasse. Boris Tavernier, bonjour. VRAC, c'est l'acronyme de « vers un réseau d'achat en commun ». Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine et de la mission de VRAC ainsi que votre rôle en tant que délégué général de cette association ?
Alors je vais revenir un petit peu avant VRAC. Au début des années 2000, avec deux amis, on a monté un bar, restaurant, salle de spectacle à Lyon, avec déjà cette envie, cette volonté de soutenir l'agriculture paysanne. À cette époque-là, José Bové vient de démonter le McDo de Millau, on a des bonnets péruviens, les kickers aux pieds, et on croit qu'un autre monde est possible. Et on remplace tous les produits d'un bar classique par des produits bio, par des produits locaux, en s'installant déjà dans un quartier populaire à la Guillotière à Lyon, avec une volonté de prix bas. VRAC, c'était l'idée, c'était d'aller plus loin, parce qu'on avait touché un public militant, sensibilisé, comment on fait pour toucher les publics éloignés de cet accès à l'alimentation. Donc c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec la Fondation Abbé Pierre et avec des bailleurs sociaux. Et les bailleurs avaient envie de développer un projet qui puisse se toucher le pouvoir d'achat, le reste à vivre de leurs locataires. La Fondation Abbé Pierre soutient beaucoup de projets dans les quartiers populaires de lutte contre l'isolement et l'exclusion. Puis moi, j'avais ma casquette alimentation. Donc c'est vraiment né de cette rencontre-là. Et pourquoi les banlieues ? Parce que c'est là où les habitants sont vraiment victimes de cette double peine de ne pas avoir les moyens de bien consommer ou d'avoir rien, de ne pas avoir d'avoir que des discounters sur leur territoire. Donc il y a un vrai enjeu à ce que tout le monde mange mieux dans ces quartiers. Là. Et le démarrage était assez rigolo. Je me souviens que le président de d'origine me dit tu t'enfermes dans un bureau et tu écris le projet. Et moi, je viens de la campagne du Pas-de-Calais, je ne connaissais pas les banlieues. Je me suis plutôt dit je vais aller dans les quartiers, je vais aller rencontrer les gens et on va voir ce que ça va donner. Et donc voilà, c'est VRAC, c'est le lien entre le monde paysan, entre les mangeurs. C'est faire en sorte que les deux se rencontrent et s'apprécient. Et donc, on développe des groupements d'achat dans les quartiers. C'est vraiment cette notion d'alimentation choisie qui est importante. Chaque mois, on propose une centaine de références de produits bio, en grande majorité. Et les habitants vont choisir les quantités, les références dont ils ont besoin. Il n'y a aucune obligation. Ce n'est pas un panier contraint et forcé. Vous habitez les quartiers, c'est 1 euro l'adhésion à l'association et prix coûtant pour tous les produits. Et chaque mois, on va aller livrer les groupements d'achat dans les quartiers, souvent dans un centre social, créer une épicerie éphémère avec les habitants et jouer à la marchande ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur du projet. Et donc ça fait 10 ans que ça existe, on est dans 106 quartiers en France et campus universitaires. On touche à peu près 20 000 personnes aujourd'hui. Donc c'est pas encore dingue, mais ça commence à être intéressant. Et c'est aussi un projet qui est fait aussi pour répondre à cette urgence sociale, environnementale, mais on a toujours cette volonté de changer les politiques publiques. Donc il fallait atteindre une taille critique pour pouvoir être écouté. Et aujourd'hui, on porte avec beaucoup d'autres la sécurité sociale et l'alimentation. Donc on est dans le collectif national avec la Confédération paysanne, avec des chercheurs, avec Ingénieurs sans frontières, Agrista, avec plein de monde. Et on est à l'initiative aussi d'expérimentation sur plusieurs territoires. Et pour vous en dire un peu plus, la sécurité sociale et l'alimentation, c'est vraiment cette idée de sanctuariser le budget alimentation qui est systématiquement la variable d'ajustement dans les petits budgets. Et c'est 150 euros par personne, enfants compris, pour pouvoir se nourrir. Donc le premier pilier est l'universalité, que ce soit vraiment pour tout le monde, qu'on sorte des politiques pour les pauvres. On dit toujours une politique pour les pauvres, c'est une pauvre politique. Donc il faut que ce soit pour tout le monde, c'est important d'embarquer toute la société. Le deuxième pilier est cette idée de cotisation, que chacun puisse payer selon ses moyens, que chacun participe à remplir cette caisse alimentaire. Et le troisième pilier, qui est pour moi le plus important, et là où l'éducation populaire va intervenir, c'est cette question de démocratie. démocratie alimentaire, de conventionnement des produits. Qu'est-ce qu'on fait de ces 150 euros? Qu'est-ce qu'on achète comme produit? Quel magasin? Quel producteur? Quel paysan? Et l'enjeu, il est vraiment là-dessus. Je pense qu'on n'aura pas de problème à mettre en place l'universalité ou la cotisation. Je pense que Bercy sera très fort là-dessus. Par contre, l'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable, dans nos 36 000 communes, de se rassembler, de créer des assemblées citoyennes pour travailler sur cette sécurité sociale de l'alimentation?
Alors justement, puisque vous parlez de la sécurité sociale de l'alimentation, peut-être pouvez-vous nous expliquer quel lien il existe entre VRAC et SSA?
Bah, nous, c'est vraiment c'est la suite logique. On a toujours défendu ce projet systémique de soutien de l'agriculture paysanne, que ça soit à de l'autre côté du pont à l'époque, à VRAC aujourd'hui, et de permettre aux mangeurs de mieux se nourrir. Donc c'était une évidence. Même si demain la SSA est mise en place, VRAC existera toujours parce qu'on est aussi installé dans des endroits. On peut pas appeler ça désert alimentaire tel qu'on peut l'imaginer aux États-Unis, mais il y a quand même des grosses zones blanches en France, des quartiers où c'est très très difficile de se nourrir. Donc on sait qu'on sera quand même toujours présent, qu'on sera toujours en soutien des paysans. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas prêt de disparaître.
Sur les enjeux de santé, comment VRAC sensibilise les membres de sa communauté? De manière générale, quel lien faites-vous entre santé et alimentation?
Alors on essaye surtout de ne pas être dans la morale et l'injonction, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça ne fonctionne pas. Déjà, il faut réussir à convaincre. Alors moi, je suis persuadé que, et puis je pense qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits là-dessus pour montrer ce lien fort entre l'alimentation et la santé. Donc déjà, mieux se nourrir, avoir des produits bruts, des produits de très bonne qualité, sans pesticides, conservateurs et compagnie, je pense que ça peut faire du bien. Mais on ne peut pas arriver sur ces territoires en disant « Bonjour, j'ai des produits bio, vous allez voir, ça va être super. » Parce qu'il y a un rejet de ce que tu peux pas t'offrir. C'est pas pour nous, c'est pour les riches. Et puis, est-ce que c'est vraiment bio? Donc, tu critiques quand tu peux pas avoir accès. Donc déjà, il faut convaincre. Et pour convaincre, on organise des dégustations au pied des immeubles. On fait goûter les produits. Une fois que la barrière du goût est passée, on parle de prix. Le choix qu'on avait fait, c'était de tout revendre au prix d'achat sans aucune marge. Et même maintenant, à des tarifs encore moindres, pour permettre vraiment à tout le monde de mieux se nourrir. Donc une fois que ces barrières sont cassées, il y a plein de questions, il y a plein de... Mais oui, mais est-ce que ton apiculteur, il donne du sucre aux abeilles l'hiver? Et puis là, comment il travaille? Donc ça, c'est hyper intéressant. Beaucoup de visites apprenantes sur le terrain, d'aller rencontrer les paysans, de refaire ce lien avec ceux qui nous nourrissent, parce qu'on ne sait plus rien, on n'a plus confiance en personne. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça permet de changer les pratiques. On peut se dire, ouais, mais quand même, ton huile d'olive, elle est très très chère... Mais quand on va revoir le paysan, voir comment il travaille et de voir ce qu'il gagne à la fin du mois, ça nous fait quand même cogiter. Les ateliers de cuisine, par exemple, ils vont être vraiment portés par les habitants eux-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir un spécialiste qui va vouloir éduquer les pauvres à mieux se nourrir. En fait, les compétences, tout le monde les a. Donc on va s'appuyer sur un plat d'une dame du quartier et puis on va tous réfléchir, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est bon pour nous? Ça marche aussi sur les concours de cuisine où on va travailler sur une consommation moins carnée, c'est dans les règles du concours de cuisine. Il n'y a pas de viande, c'est comme ça. Ça fait râler, mais ça fait aussi des petites sauces aux épices, aux légumes, des petits jus de légumes. Et en fait, ça nous rend plus créatifs et c'est un peu meilleur aussi pour la planète, pour le porte-monnaie et pour la santé. Donc c'est plein de petites choses comme ça, vraiment en jouant en fait, quoi, en s'amusant, même pour toucher les gamins. On a créé des vélos cargo qui se transforment en cuisine de rue et on va au pied des immeubles. Et on va pas leur faire un plat qu'ils vont pas comprendre. On va faire un tacos. Mais on va faire un tacos avec des champignons, avec du chou rouge, avec des légumes de saison. Et les gamins, ils vont kiffer, ils vont participer. Au début, les garçons disent non, la cuisine, c'est pour les filles. Alors direct, je leur mets un beau tablier rose, comme ça, pour bien qu'ils comprennent. Et puis en fait, ils restent des heures. Ils adorent ça. Et c'est aussi par la transmission, donc de l'intergénérationnel. Donc voilà, il y a plein d'outils pour embarquer les gens et faire des choses avec eux.
Merci beaucoup pour la présentation de ces outils, de ces méthodes. Comment VRAC travaille en collaboration avec les acteurs locaux tels que les ateliers Santé-Ville pour promouvoir la santé et le bien-être au sein des communautés?
L'atelier Santé-Ville, moi, c'était une de mes premières entrées quand je démarre, et puis encore aujourd'hui, quand on démarre l'installation d'un groupement d'achat sur un territoire, on va voir tout le monde. Moi, j'allais à la mosquée, au foyer protestant, à l'église, à la sortie de l'école. Et les ateliers Santé-Ville, il y a tous les acteurs d'un territoire qui travaillent aussi sur ces sujets. J'ai pu faire des randonnées avec des habitants organisées par les ateliers Santé-Ville pour discuter. Ah, bah, vous baladez ensemble, vous voulez pas qu'on fasse nos courses ensemble? Donc, il y a un lien qui est assez intéressant. Et on est allé plus loin, notamment à Lyon, dans un lieu qu'on a créé qui s'appelle la Maison Engagée Solidaire de l'Alimentation, la MESA. Donc on est dans un QPV du 8e arrondissement de Lyon et il y a un centre médical qui est pas très loin de notre maison de l'alimentation. Et on organise une fois par mois une après-midi dédiée à ces enjeux-là. Alimentation et santé, on a beaucoup d'adhérents qui sont diabétiques. Et il y a toujours un praticien du territoire qui vient parler d'une thématique, échanger avec les habitants. Donc bah, moi j'ai tel problème, bah, y a telle solution. Il y a aussi pas mal de non-recours au droit hein, sur ces questions-là. Et ce temps collectif permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul face à la maladie, face aux problématiques de santé. Et ça génère aussi, on a pu mettre en place un accompagnement individuel. Donc juste après la réunion collective, on va dire aux habitants, mais si vous voulez, là vous faites 50 mètres, vous pouvez avoir un rendez-vous individuel pour aller un peu plus loin sur votre problématique. Donc il y a encore beaucoup à faire parce que moi j'en suis persuadé que ce lien est fort, mais aujourd'hui on n'est pas soutenu par les services, par l'ARS, par le ministère de la Santé notamment, pas suffisamment par les mutuelles, mais j'espère qu'après ce podcast ça changera. Donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu de société très fort là-dessus, et pas que pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons environnementales.
Alors on a pu échanger un petit peu au préalable et vous aviez mentionné le programme Territoire à vivre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative et comment elle contribue à renforcer la sécurité alimentaire dans les territoires concernés ?
On est nombreux à bosser sur ces sujets et puis on est bien conscient que si on était fédérés, on serait plus fort. Mais c'est compliqué la coopération, c'est pas forcément simple à mettre en place. Territoire à vivre, c'est un projet qui est né du plan de relance il y a 2 ans, en 2021, et avec les Jardins de Cocagne, avec l'UGES, qui est le groupement des épiceries sociales et solidaires, avec le Secours catholique, avec le réseau CIVAM, réseau de paysans et VRAC, on a mis en place ce travail de coopération sur les territoires. À Toulouse, à Marseille, Montpellier et Lyon. Et on s'est rendu compte qu'en étant 25-30 projets autour de la table, on pouvait aller plus loin et échanger aussi les rapports de force. Donc on a pu mettre en place aussi des projets plus ambitieux. L'expérimentation de caisse alimentaire de Montpellier est née de Territoire à vivre. À Marseille, on travaille plus sur une fédération des épiceries sociales et solidaires et du lien qu'il peut avoir notamment avec les paysans et avec les jardins de Cocagne pour améliorer la qualité de l'offre dans les épiceries. À Lyon, ça a été un travail assez gros de logistique pour mutualiser toute la logistique des acteurs de la solidarité. Donc voilà, on est tous tout petits face aux gros qui nous entourent, que ce soit l'industrie agroalimentaire ou des grosses structures de l'aide alimentaire. On a tout intérêt à travailler ensemble pour essayer de réduire aussi les inégalités entre nous.
Et justement, en quoi les valeurs de solidarité et d'éducation populaire sont-elles essentielles pour le fonctionnement et le développement de VRAC ?
Ben, VRAC, c'est certes un projet économique, social, environnemental, mais c'est aussi un projet citoyen. Aujourd'hui, on fait signer d'ailleurs dès l'adhésion une charte de l'adhérent. S'il n'y a pas une... Alors évidemment qu'on ne menace pas nos adhérents, mais la participation est hyper importante, sinon le projet ne tient pas. Aujourd'hui, on est dans chaque association en moyenne 3-4 salariés, donc c'est clairement pas suffisant et on a vraiment besoin que les gens puissent nous aider. Mais pas que sur l'opérationnel, on veut pas juste des petites mains qui viennent porter des cartons. C'est déjà hyper intéressant et plutôt on fait ça plutôt de manière festive. Mais ils sont aussi ambassadeurs du projet VRAC, donc les habitants peuvent aller. Je me souviens à Vau-en-Velin par exemple, il y avait une commission développement durable. C'est pas moi en tant que salarié qui y allais, c'était les habitants qui allaient représenter l'association au sein des instances. Dans chaque association VRAC, il y a un collège habitant. Donc c'est hyper important pour nous. C'est eux les spécialistes de leur territoire, c'est eux les spécialistes de leur vie. Donc c'était vraiment indispensable qu'ils puissent être dans la gouvernance. Et donc il y a des présidents, des vice-présidents de VRAC aujourd'hui qui sont des habitants des quartiers. Et qui sont montés en compétences politiques. Donc voilà, on ne peut rien faire sans eux en fait. Et on va au-delà de la concertation, on va au-delà de la participation, on est aussi sur de la co-construction. Il y a plein de groupes de travail, que ce soit sur la communication, sur les projets, sur les produits, qu'est-ce qu'on commande, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on veut manger. Donc voilà, c'est très très riche, c'est assez bouillonnant, mais ça prend du temps, mais c'est indispensable.
Et si on se projette ? Quels sont les objectifs futurs pour VRAC, notamment en termes d'expansion géographique et d'impact sur la santé et le bien-être des populations locales ?
La question de l'expansion est toujours intéressante parce que c'est difficile. Enfin, on n'est pas très gros, mais ça coûte de l'argent de se développer. En même temps, on se rend compte qu'on est assez agile et par rapport à ce qu'on fait, qu'on n'est pas si cher. Et là, j'avais le sentiment qu'on atteint une sorte de plafond de verre. On est connu, mais pas assez. On est visible, mais pas assez. On a des moyens financiers, mais pas assez. Donc, il faut... continuer de se développer, de grossir. On est en Belgique depuis pas très longtemps. On est en train de travailler sur les départements d'outre-mer et on espère toucher au moins d'avoir à peu près 2 vracs dans chaque grande région pour que eux aussi ne soient pas seuls sur leur territoire. Donc il y a déjà cette ambition-là, mais il faut que ce développement soit mesuré parce que ça peut générer aussi de la souffrance. Ça reste un métier difficile. Quand on démarre vrac, on est seul. On doit gérer à la fois l'approvisionnement, le lien avec le monde paysan, des milliers de demandes de subventions. Mon collègue lyonnais a 60 demandes de subventions par an, 60 dossiers. On est là dans le monde associatif en France aujourd'hui et dans l'ESS. Ce serait pas mal qu'on puisse en discuter un jour, qu'il y ait une vraie mobilisation des acteurs pour demander ne serait-ce que du pluriannuel. Ça ferait du bien à tout le monde et même aux techniciens qui traitent les dossiers. Donc il faut vraiment mesurer cette expansion pour ne pas générer trop de précarité dans les équipes aussi. Il faut continuer, on continue de travailler le plaidoyer politique, d'aller dans les ministères, d'aller voir les députés, de faire du média pour continuer de porter cette parole, notamment de sécurité sociale de l'alimentation, qui est vraiment ce projet de changement de société, et de continuer ce travail de fourmi, de politiser aussi les gens sur le terrain, de travailler la démocratie alimentaire, de travailler sur le droit à l'alimentation. Ça passe aussi beaucoup par les territoires. Donc nous, on aime bien ça, on aime bien faire en local et de faire remonter les sujets aussi au niveau national. Et c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Et ensuite, on continue de faire des expositions, des bouquins, des concours de cuisine, plein de choses qui font vivre l'association, puis qui nous animent nous aussi en tant que salariés. C'est aussi important qu'on puisse s'y retrouver humainement et dans les projets.
Merci pour ces précisions. Y a-t-il un sujet que vous auriez aimé aborder ou développer un peu plus dans ce podcast ?
La question piège. Sur les projets, en tout cas sur la sécurité sociale de l'alimentation, sur ce projet de caisse alimentaire, c'est très sexy en ce moment, c'est très visible, ça plaît aux politiques, ça plaît aux médias. Et moi, j'alerte juste sur le fait que c'est un projet en plus. Aujourd'hui, une caisse alimentaire, un projet de SSA sur un territoire, ça va fédérer beaucoup d'associations, beaucoup de paysans et de citoyens. Et il faut surtout faire attention à ne pas mettre tous les moyens dans ce projet de caisse alimentaire, parce que si les structures qui composent le projet ne sont pas soutenues, ça disparaîtra complètement. Donc c'est vraiment important et c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à dire « Oh là, ça c'est bien, il y a les journaux qui viennent, il y a les médias qui viennent, ça plaît à tout le monde, je vais mettre tous les moyens de l'alimentation de mon territoire dans cette caisse et ça ne fonctionnera pas, ça peut s'écrouler. » Il faut aussi faire attention à travailler ensemble. Aujourd'hui, on n'a pas le luxe d'être divisé et vraiment, c'est les citoyens, les associations, les entreprises, les collectivités qui peuvent ensemble changer un peu les choses. En face, ils sont organisés, les lobbies sont très 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 forts et on ne peut pas utiliser en tant que militant associatif, en tant que responsable d'asso, les collectivités ou les entreprises uniquement comme des guichets à qui on va aller prendre de l'argent pour monter nos projets. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à avoir des partenariats forts, que ça soit chez vous, à la MGEN ou dans d'autres groupes mutualistes. Je pense qu'il y a plein de gens hyper engagés qui ont envie aussi de pouvoir investir ces projets-là sans qu'on leur crache dessus parce qu'ils viennent de grands groupes. Donc il faut vraiment qu'on fasse, nous aussi, preuve de grande ouverture. Il y a un intérêt fort à l'interconnaissance avec le secteur privé qu'on ne connaît pas et il y a beaucoup de fantasmes des deux côtés. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se connaisse plus et qu'on avance main dans la main.
Pour finir, j'ai une dernière question. Un livre, un film, un podcast, auriez-vous une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Alors je vais être un peu monomaniaque sur les thématiques. Le livre, je peux vous conseiller le dernier sur l'alimentation, c'est La France qui a faim de Bénédicte Bonzi, qui a passé 5 ans en maraude avec les Restos du Cœur, qui est sociologue, anthropologue et qui a fait un gros travail sur ces questions d'aide alimentaire. En termes de film, il y en a un qui va sortir très prochainement, ça s'appelle La théorie du boxeur de Nathaël Coste, qui parle de notre système agroalimentaire et de tout ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire pour que ça aille mieux.
Merci Boris Tavernier pour ses perspectives éclairantes sur l'éducation populaire et la promotion de la santé. Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour des futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci de nous avoir rejoints.